top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Il est 9h40 sur France Inter et c'est le dernier instant M de la semaine.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Le vote de la loi contre la manipulation de l'information s'est embourbé cette nuit à l'Assemblée nationale. Pas d'adoption en première lecture, la majorité aurait sous-estimé les assauts de la France insoumise, du Front National et des Républicains qui hurlent à la mort de la liberté d'expression. Cette loi les empoisonne, écrit l'Obs ce matin. Pourtant, dans son édito, Le Monde la juge délibérément inefficace pour qu'elle ne soit pas justement dangereuse. Après la matinale de France Inter ce matin, l'instant même vous propose de creuser le sujet. Nous ne discuterons pas forcément confiance ou vérité, mais focus, c'est ce que nous vous proposons sur ces armées de l'ombre payées pour répandre des fausses nouvelles. Nous vous racontons comment ce système est complètement artificiel.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour à vous Antonio Casilli.
Bonjour.
Sociologue du web, spécialiste des usages du numérique, maître de conférence à Télécom Paris Tech. Qu'est-ce que c'est Télécom Paris Tech?
C'est l'ancienne École Nationale Supérieure de Télécommunications.
Voilà.
Grande école française.
Et également chercheur à l'EHESS. Je vous propose d'abord un petit coup d'œil sur l'actualité des médias. D'ailleurs, je vais vous demander éventuellement de nous aider à comprendre les mécaniques dont je vais vous parler dans un instant. Et puis ensuite, nous plongeons dans ce débat national sur les fake news. Coup d'arrêt hier, net et brutal pour BuzzFeed France. Décision totalement inattendue de son actionnaire américain en difficulté financière. Ce site, une équipe de 14 personnes, avait développé une ligne éditoriale très nouvelle et très remuante. Au départ, des classements rigolos et anecdotiques partagés à gogo sur les réseaux sociaux. Et puis en France, comme aux États-Unis, un deuxième fil d'infos, celui-là, recrutant des journalistes d'investigation capés. Scoop et révélation, je vous en cite quelques-uns. Le restaurant L'Avenue refusant les clients arabes, enquête sur les candidats aux législatives du Front National et leurs activités numériques, acte de violence commis par Jean-Michel Bailey, ancien ministre, à l'encontre d'une de ses collaboratrices. Bref, pour tout ça, tout ce que je vous ai dit, fin de partie. Antonio Casilli, il y a peut-être quelque chose qu'on peut expliquer aux auditeurs, c'est-à-dire que ces médias numériques sont extrêmement dépendants en termes d'audience et du coup économiquement parlant des réseaux sociaux, puisque ce sont les réseaux sociaux et principalement Facebook qui diffusent, qui disséminent leur contenu.
En effet, il s'agit d'une manière de faire média et de faire information qui est basée sur la circulation et sur la répétition et sur le partage. Mmh. Et c'est, disons, des aspects qui sont cruciaux pour comprendre que le contenu est important, mais le contenu n'est que le coup d'envoi de quelque chose qui est un processus beaucoup plus vaste, qui est basé sur la participation des publics. Mmh. Alors, de ce point de vue-là, en effet, si vous enlevez la caisse de résonance représentée par une plateforme comme Facebook, qui est une plateforme univers, qui a une ambition à remplacer l'Internet en tant que tel. Et donc, vous vous retrouvez dans des situations comme celle dans laquelle se retrouve aujourd'hui BuzzFeed et d'autres médias de ce type, dans la mesure où Facebook, au début de l'année, a décidé de changer radicalement son algorithme de classification des informations pour se recentrer sur ce qu'ils appellent les liens forts. Donc, finalement, de faire apparaître dans vos newsfeeds, sur vos murs, plutôt des contenus qui viennent de vos connaissances, amis, membres de votre famille. C'est pour ça que vous voyez davantage peut-être de vos connaissants et collègues ou alors plutôt de votre grand-mère qui parle de ses chatons. Et un peu moins de médias classiques qui sont considérés comme des liens faibles. Vous n'avez pas un lien direct avec Le Monde ou avec BuzzFeed, en l'occurrence. Non. Alors, évidemment, si vous êtes un média traditionnel, en plus ancré papier ou écran, comme ce qu'on connaît partout en France et dans le monde, vous avez une base qui ne change pas, malgré les changements de l'algorithme
de
Facebook.
Mais quand vous êtes un pur média numérique, toute nouvelle génération, comme les BuzzFeed, alors pour le coup, on en souffre directement.
Vous êtes dépendant de l'algorithme et du modèle d'affaires de Facebook.
Et du modèle d'affaires de Facebook. Facebook. Voilà, un dernier mot quand même, Antonio. Cher Antonio, tous les jeudis, nous invitons les auditeurs de France Inter à jouer. Vous n'avez pas le droit de jouer, c'est notre Madeleine. Cette semaine, figurez-vous qu'on vous offre avec Lina un an d'abonnement à INA Premium. Alors INA Premium, c'est le site professionnel de l'INA auquel vous aurez complètement accès. C'est une mine d'or d'archives sans limite de durée. Vous pourrez tout voir, même les longs métrages et les séries de l'ORTF. Une seule adresse, l'instantm@radiofrance.com. Voici ma question. Comment s'appelait l'ancêtre de la caméra cachée?
En première séquence, on va voir ce que vous avez fait à Marseille. Qui avez-vous attaqué?
À Marseille, ce n'était pas Fernand Reynaud, il n'était pas là, mais nous avions notre grand spécialiste Jacques Legras qui a attaqué une poissonnière.
Ah, la poissonnière de Marseille, avec son accent, avec ses
savoureux.
Et qu'est-ce qu'il lui réclame?
Une truite qu'elle n'a pas.
Une truite qu'elle n'a pas, je trouve ça génial. Comment s'appelait cette première émission de caméra cachée à la télévision? L'Instant M à radiofrance.com. Bonne chance à vous tous et un grand merci à toute l'équipe de l'Instant M qui m'a accompagnée cette semaine. Anne-Cécile Perrin à la réalisation, Marion Philippe et Redouane Tella qui ont préparé les émissions et puis Stéphane Beaujac qui est à la technique ce matin.
L'Instant M sur France Inter.
Antonio Casilli, contrairement à ce qu'on dit, la diffusion des fake news n'est pas le fait d'une horde de colporteurs numériques qui répandent librement des fausses nouvelles et qui le font par conviction. Ça, c'est très important. C'est l'un des axes majeurs de vos écrits récents et de vos recherches. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la façon dont Google, dont Facebook, dont Twitter sélectionnent l'information. Alors, on va commencer par ça parce que c'est très important d'expliquer comment fonctionnent ces régies publicitaires qui collectent des données personnelles. Les données personnelles, c'est nos historiques de navigation, c'est nos listes d'amis, c'est notre localisation géographique, c'est les photos qu'on like, c'est les vidéos qu'on a regardées, etc., etc. Pour collecter un maximum de données, ces plateformes et donc leurs régies ont besoin qu'on reste un maximum de temps chez elles et qu'on consomme un maximum de contenu. Peu importe la nature de ces contenus.
Exactement. Il faut que les contenus soient attachants, compelling, comme disent les Anglais. C'est-à-dire qu'ils attirent votre attention et qu'ils vous obligent à rester scotché à votre écran ou à votre mobile. Et après, évidemment, qu'il s'agisse d'un animal merveilleux qui fait des choses sympas, donc votre chaton qui joue du piano, ou alors qu'il s'agisse de quelque chose d'extrêmement problématique, comme par exemple de la fausse information orientée propagande politique, il n'y a pas en ligne de principe de différence pour les plateformes qui sont agnostiques du point de vue des contenus. Évidemment, sont aussi sensibles aux actions en justice et aux tollés médiatiques. Donc, bien évidemment, sûr. Ne vont pas faire passer n'importe quoi. Il y a donc énormément de sélection des contenus, il y a de la modération de contenus, il y a des armées de modérateurs qui sont souvent des personnes qui sont très très mal payées, qui se trouvent aux Philippines ou en Inde et qui regardent à longueur de journée des contenus problématiques. Mais évidemment, tout cela fait partie d'un énorme modèle d'affaires qui est basé évidemment sur la collecte de données et sur l'appariement algorithmique des données. Il faut expliquer rapidement de quoi il s'agit. En gros, il faut croiser les données d'une manière intelligente pour, d'une part, proposer de l'information sélectionnée d'une certaine manière. Par exemple, si je saisis une requête dans le moteur de recherche de Google, il faut que la page qui s'affiche ensuite soit significative, soit importante, pertinente pour moi.
Oui.
Okay. Donc ça, c'est, si vous voulez, le service de façade. Je ne vais pas dire comme ça, mais bon.
Vas-y.
Derrière, il y a évidemment un autre service assuré par les grandes plateformes, qui est un service d'appariement entre des consommateurs, même si ça se discute qu'ils soient complètement des consommateurs,
des annonceurs. Des marques.
Donc, alors, de ce point de vue-là, rien de différent par rapport à certains médias traditionnels de nature commerciale, les journaux gratuits, vous voyez, sont basés sur le même principe. Mais en même temps, la question est que sur les médias numériques, cela, et sur les grandes plateformes numériques, cela devient vraiment quelque chose dont les conséquences sont inattendues. Parfois, il y a des effets pervers, il y a des effets de complications.
C'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien que la logique est quand même une logique de rupture par rapport à la presse traditionnelle. C'est-à-dire, on a besoin que vous restiez le plus longtemps possible sur Facebook, on a besoin que vous restiez le plus longtemps possible sur YouTube, on a besoin que vous restiez pour mieux vous connaître, pour pour mieux vous dessiner, etc. Ça, c'est quand même extrêmement important.
Est-ce si différent par rapport à la télévision, par rapport justement aux médias du siècle passé?
À la durée d'écoute en radio.
Voilà, par exemple. Mais la différence, je dirais, est surtout dans le rôle du spectateur, du public, on va dire comme ça, qui cesse d'être des publics passifs, donc, et qui deviennent des audiences actives, qui doivent cliquer, qui doivent partager, qui doivent commenter, qui doivent qualifier l'information. Et finalement, la qualification de l'information devient la partie la plus problématique et la plus difficile à contrôler.
Alors justement, on y vient. Je vous propose d'aller en Macédoine, évidemment une région du monde qui a énormément fait parler d'elle, puisque une région du monde qui a été bassin de production et de conception de fake news. On va voir pourquoi, là encore une fois, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Pas de militantisme, pas de conviction, juste un intérêt économique.
Certains de mes étudiants ont compris qu'ils pouvaient faire de l'argent avec la politique. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Aujourd'hui, 4 de mes étudiants sont millionnaires. Beaucoup d'entre eux investissent, ils ont pu faire des emprunts à la banque pour développer leur page. Je pense que le président Donald Trump est un personnage intéressant. Il veut tout le temps. Ambition, ego, argent, puissance. L'American way. Et parfois, il va même mentir sur son succès pour aller au degré supérieur.
C'est-à-dire qu'avant de légiférer sur les fake news, Antonio Casilli, il faut en comprendre la logique. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas de logique politique, il n'y a pas de volonté de propagande, il n'y a pas de volonté de déstabilisation de l'opinion. Il y a volonté de se faire de l'argent.
Alors, entendons-nous bien. Il y a, quelque part, il y a une volonté de déstabiliser le panorama politique. Après, évidemment, on passe par les petites mains de cette information et de cette manipulation de l'information. Qui sont ces petites mains? Voilà, il s'agit parfois de jeunes en rupture scolaire qui ont besoin de faire de l'argent rapidement et dont les perspectives d'emploi sont extrêmement limitées. C'est le cas de la Macédoine qui se sont adonnés à cette activité de production de mèmes. Mèmes, c'est donc des images chocs accompagnées parfois de messages tout à fait problématiques, parfois très chargés du point de vue raciste, sexiste et ainsi de suite, qui ont fait le succès.
Des contenus compelling, comme vous disiez, sticky, c'est-à-dire des trucs qui vous scotchent à l'écran.
Parce que même si je suis pas d'accord, et surtout si je ne suis pas d'accord, je vais peut-être partager l'information parce que je suis scandalisé, que je suis heurté, parce que je suis insulté. Donc du coup, double circulation. Une circulation de personnes qui adhèrent au message, donc les racistes et les sexistes de service, et de l'autre côté, par contre, les personnes qui censurent.
Voilà.
Ce qui fait le succès en termes de clics sur les grandes plateformes.
Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a là un bassin de production de fake news et que ce bassin de production, il est ni libre, ni inspiré politiquement. Il est là et il est fait pour gagner de l'argent. Maintenant, on va aller de l'autre côté de l'ordinateur. Qui clique? Je vous emmène dans une usine, dans une usine du côté du Sri Lanka.
Notre formule basique coûte entre 100 et 200 dollars. Et cela inclut les likes sur Facebook. Le principal sera Facebook, après Twitter, Instagram et YouTube. Combien de temps vous faut-il pour obtenir 2000 likes? Cela prendra environ 2 semaines. Nous allons créer des profils avec des noms français, de personnes françaises. Et ensuite, nous allons utiliser ces profils pour faire des commentaires sur votre page, pour que ça semble plus vrai.
Il y a une part d'artifice dans la diffusion et l'ampleur que prend la diffusion des fake news. Et ça, peu de gens le savent, Antonio Casilli. Ça s'achète, la diffusion d'une fake news. On parle beaucoup de la crédulité du public. On parle très très peu de ce que vous décrivez très bien dans vos articles. Ça s'achète, ça se paye.
C'est-à-dire des fermes à clics. Et voilà, et des fermes à clics, c'est des usines qui parfois ont vraiment pignon sur rue. Et parfois, il s'agit tout simplement de millions de personnes qui se connectent depuis chez eux.
Dans quel pays?
Alors, il s'agit souvent de pays qu'on définit comme émergents ou en voie de développement, à faible revenu, dans lesquels, en gros, les perspectives d'emploi et surtout le salaire moyen est très limité. Parfois, on parle de 130 dollars, l'équivalent de 130 dollars par mois, dans lesquels, évidemment, devient intéressant de travailler dans ces fermes à clics, dont le principe, pour si vous êtes un travailleur, est celui du travail à la pièce. La pièce veut dire que chaque clic est rémunéré. Mais entendons-nous bien.
Quelques centimes, hein?
Même moins que ça. Personnellement, finalement, j'ai été témoin de certaines fermes à clics qui payaient 0,0006 centimes par clic.
Alors, on est au Bangladesh, au Pakistan, au Népal, au Sri Lanka, en Inde, au Kenya, à Madagascar. Et il faut savoir que tout s'achète. Les commentaires, les partages, les retweets, des faux followers même, par exemple, qui suivraient votre compte Twitter. Des messages haineux, ça s'achète. Des messages diffamatoires aussi. Faire augmenter le visionnage d'une vidéo aussi. Créer des profils qui s'abonnent à des profils d'extrême droite xénophobe aussi. Ça s'achète. C'est extrêmement intéressant. Et vous citez une enquête qui aurait révélé que Trump aurait acheté 60% des fans de sa page Facebook aux Philippines.
Pas seulement aux Philippines, et de manière assez ironique, une bonne partie de ces faux fans de la page Facebook de Trump venaient du Mexique. Mmh. Ce qui est absolument paradoxal si on pense à l'énormité des choses que Trump a pu débiter contre les Mexicains. Ouais. Et donc cette idée selon laquelle il va obliger le Mexique à payer son mur. Alors que ce point de vue-là, on se retrouve dans une situation de travailleurs du clic qui travaillent contre leur propre intérêt.
Alors juste moi, j'ai deux questions pour vous, Antonio Casilli. Comment on peut décrire un système aussi artificiel qui n'est qu'une grande machine économique et comprendre qu'au bout du compte, il y a une modification bien réelle de l'opinion, primo? Et secondo, est-ce que les lois sur lesquelles on travaille en France, mais pas seulement en France, prennent en compte cette dimension-là?
Alors, la décrire, malheureusement, il faut tout simplement s'adonner à un travail de recherche beaucoup plus poussé de celui qu'on mène aujourd'hui. Personnellement, je fais partie d'un volet de la recherche scientifique en sciences sociales qui insiste sur le fait qu'il faut regarder ce qu'on appelle le digital labor, c'est-à-dire le travail numérique, le travail du clic. Et voilà, ça se discute à l'intérieur de la discipline et à l'intérieur de nos disciplines, parce que pas tout le monde est d'accord. Il y a certains qui continuent d'insister sur le fait que non, il s'agit de consommateurs, non, il ne faut pas regarder les conditions de travail de ces personnes à l'autre bout du monde.
Bon, voilà. C'est pris en compte, ça, par les autorités, par les gouvernements, par les députés, par l'Assemblée nationale?
Alors,
cette dimension-là?
Pas dans cette loi. Pas dans la loi sur la manipulation de l'information qui est basée sur une certaine vision non seulement du monde politique et de la circulation de l'information mais aussi des infrastructures numériques que sont les plateformes qui n'est pas du tout capable d'envisager la circulation comme un phénomène artificiel. Donc, en gros, si vous regardez ce qui est écrit dans le texte de la loi qui a été débattu hier, c'est marqué que on peut passer par le juge des référés quand on a eu affaire à une circulation massive et automatique d'informations. Donc, normalement, ceci veut dire que le législateur cherche à bloquer les bots, donc c'est-à-dire
des robots.
La réalité est que ces robots-là ne constituent qu'une partie un peu automatisée de certaines campagnes qui sont des campagnes menées par contre par des êtres humains qui font semblant d'être des robots, qui font semblant d'être d'autres êtres humains. C'est une longue histoire, mais grosso modo, derrière, il y a toujours une ferme à clic et quelque part une boîte qui fait travail à la pièce au Sri Lanka, aux Philippines, au Madagascar.
Donc on est en train de passer complètement à côté en fait d'une ère de la guerre, quoi.
Et je dirais qu'il y a aussi un risque que... Alors, il y a évidemment le risque que la loi soit inefficace, comme d'autres lois qui ont cherché à certifier l'information sur Internet. Je pense à la loi de 2007 qui instituait la Haute Autorité de Santé et, par la même occasion, le label Health Online pour les sites qui parlaient de santé. Et quelques années après, on a complètement laissé tomber cette initiative et on risque de se retrouver dans cette situation. Mais avec notre loi sur les fake news, on a plutôt le risque de faire le jeu de l'ennemi. Si l'ennemi est donc celui qui cherche à partager l'information, la fausse information. Pourquoi ? Parce que si on commence à monter à chaque fois un cas qui passe devant la justice autour d'une fausse information, on réplique la fausse information et donc on crée une deuxième news, une troisième news qui cherche justement à déjouer la première, ce qui fait une caisse de résonance énorme et qui fait évidemment le jeu même de cette fausse information qui, je le répète, est basée sur la copie, est basée sur la répétition.
Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Antonio Casilli, parce que voilà des dimensions qu'on a peu entendues dans le débat public et qui, à mon avis, peuvent éclairer la réflexion et les prochaines discussions. Merci beaucoup.
Merci
à vous.